Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
He's got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 264 du podcast Jeune Actu Alain Mattei. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief habituel du mardi. À mes côtés cette semaine, il est là en chemise bleue et très élégant comme d'habitude, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour.
Salut à tous.
Raphaël, seul cette semaine, old school, l'an 2011, deux jeunes téméraires se lancèrent sur un podcast de football américain. Ça nous rappelle le bon vieux temps. Et il était déjà là, il avait beaucoup moins de barbe, il n'en avait même pas du tout à l'époque. C'était Camille Sarabène et c'est toujours Camille Sarabène. Bonjour.
Salut.
On vous rappelle que le podcast Jeune Actu du mardi vous est présenté par l'Ordre Café Paris et ses soirées Game On. C'est tous les dimanches encore cette année à partir de 19h. N'hésitez pas à y aller. L'Happy Hour est étendu pour les gens qui viennent voir les matchs NFL. Au programme cette semaine, évidemment, on va parler du Rams Chiefs qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Une rencontre exceptionnelle, folle, incroyable, peut-être la meilleure du monde de l'histoire. Nous allons en reparler. En tout cas, on va faire le point sur ce qui s'est passé. On va aussi parler des débuts de Lamar Jackson et des malheurs des Redskins. Les de ces matchs, de tous les autres, c'est dans cette émission. Les tops, les flops, vos questions, le 2-minute warning, tout est là et ça commence avec un jingle plus long que d'habitude, mais évidemment, c'est dans le délire de la soirée. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Third and 11. Wow. The Chiefs take the lead. Can you believe this? Goff on first down. Everett in stride. Wow. Touchdown Rams. Play action. He's going to wind it up. Downfield. A wobbler is intercepted. It is picked off. Marcus Peters, the former Chief.
On commence donc, Raphaël, comme je le disais juste avant, par l'énorme, l'incroyable match entre les Rams et les Chiefs, 54-51 pour Los Angeles. Et Raphaël, accroche-toi, il y a de la stat, 1001 yards dans cette rencontre. Première fois que deux équipes marquent plus de 50 points dans un match, et donc les Chiefs deviennent la première équipe de l'histoire à perdre en marquant 50 matchs. 14 touchdowns dans cette rencontre, c'est plus que les Bills sur toute la saison. Est-ce que tu as apprécié cette rencontre ?
Alors, à ma grande surprise, oui, j'ai apprécié cette rencontre.
C'est pour ça que je pose la question.
Je vais vous dévoiler un peu les coulisses. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé tout de suite le résultat. J'ai vu 51-54. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette horreur, cette orgie offensive? J'avais très peur de ce que je pouvais voir finalement. Et puis, j'ai maté le match en condensé. Et j'ai trouvé quand même le spectacle, le match de très belle intensité. Oui, il y a beaucoup de points, mais on a quand même eu des gros big plays défensifs, malgré tout, on a sur 28 drives, il y en a quand même la moitié qui se finissent par des stops défensifs, des punts, des fumbles, des interceptions. Donc les défenses, et quand je dis les défenses, faudrait même préciser les front seven surtout, parce que c'est les lignes défensives qu'on fait l'essentiel du taf, parce que les cornerbacks et les safety, par contre, étaient à la rue totale des deux côtés. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des stops défensifs, qu'il y a eu des retournements de situation. On n'a pas eu un match où une équipe a très tôt dominé avec 30 points d'avance et s'est laissé remonter. Donc malgré tout, j'ai trouvé que c'était une belle publicité globalement pour le sport et le football américain.
69 actions offensives pour les Chiefs, 75 pour les Rams. J'ai les yeux sur les stats. J'ai envie de dire, Chip Kelly en a rêvé. Les Chiefs et les Rams l'ont fait.
C'est ça.
Il y a eu énormément de jeux offensifs dans ce match. Moi, je vais te dire, j'arrive pas à savoir. Je suis plutôt. Alors, déjà, j'étais étonné de voir que tu avais apprécié. J'ai vu tes échanges sur Twitter et tout ça. C'est pour ça que je te posais la question. J'étais étonné de voir que tu avais apprécié. Je comprends en effet la stat qu'il y a eu beaucoup de stops défensifs statistiquement. Après, moi, j'ai du mal à savoir si j'ai trouvé ce match exceptionnellement fou ou très décousu. Au sens où il y avait quand même des trous d'air dans les couvertures assez monstrueux et tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, alors même si statistiquement il y a eu des stops, mais le truc c'est qu'il y a tellement de possessions, je veux dire, il y a eu 14 touchdowns dans les faits, dont 3 défensifs.
Ouais.
Dont 3 défensifs. Mais j'ai trouvé ça assez décousu. Et alors, il y a un point où je sais qu'on va pas être d'accord. C'est que, bon, je pense en tout cas, parce que je t'ai vu dire au niveau du plan de jeu. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet, le jeu au sol a assez vite été abandonné. Il y a 20 courses pour les Chiefs, 21 pour les Rams, ou l'inverse. Enfin, c'est à peu près le même nombre de courses pour les deux équipes. Ça aurait permis peut-être de calmer un petit peu le tempo, mais toi, t'es plus de l'école, ça marchait, donc il fallait le faire pour les coachs, c'est ça?
Ouais, moi, je suis un peu de cette école-là. Bon, déjà, j'ai pas forcément grand-chose à... Enfin, en tout cas, du côté Sean McVay, son plan est allé au bout. Donc, à mon sens, ça me paraît quand même difficile de le critiquer là-dessus. Je comprends totalement l'idée. On contrôle le chrono. Et c'est souvent un truc dont je suis partisan. Tu contrôles le jeu au sol, tu contrôles le chrono, tu laisses ta défense sur le banc se reposer. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Sauf que dans les faits, offensivement, on peut... C'est difficilement, à mon sens, critiquable dans le sens où tu as deux équipes qui mettent 50 points, où tu as, mine de rien, avec cette attaque hyper rapide, cette volonté de jouer en permanence, tu as aussi épuisé la défense adverse. Enfin, je suis pas certain qu'en insistant plus au sol, les défenses auraient été plus épuisées ou plus reposées d'un côté ou de l'autre, parce que là, ça allait tellement vite, c'était tellement impossible pour les cornerbacks à suivre. Enfin, je veux dire, en termes de pré-snap, ce qui se passait des deux côtés du terrain avec des joueurs qui bougeaient en permanence, qui changeaient d'audible, de direction, c'était, enfin, pour les défenses, ça devait être un cauchemar absolu. Donc voilà, ouais. Il fallait bien un perdant. Je suis pas étonné que, comme de par hasard, ce soit Andy Reid, le premier coach à perdre en voyant son équipe marquer 51 points. Il y a un petit côté loser magnifique qui correspond à Andy Reid malgré tout. C'était peut-être pas, effectivement, sur le papier, c'était peut-être pas le meilleur game plan. Maintenant, les deux coachs se sont entêtés là-dedans. Et je trouve que le déroulé du match leur donne pas totalement tort non plus des deux côtés. Voilà.
Après, là où je te rejoins, c'est qu'en effet, c'est dur de leur donner tort quand tu vois que les Chiefs sont à 9,1 yards par passe tentée, quoi.
Voilà.
Donc, enfin, à partir de là, si t'entends deux, il y a un first down quasiment à chaque fois.
C'est un très bon analyste NFL, enfin, que moi j'aime beaucoup sur Twitter, Warren Sharp, qui disait un peu, bon, c'était exagéré, mais qui disait pourquoi courir quand tu peux voler par rapport au match, et parce qu'il comparait effectivement les gains obtenus par la passe et par la course, et malgré tout, on reste dans un jeu de gains. Et je peux comprendre qu'il y a un moment où quand tu fais 10 yards, quand chacune de tes passes se transforme quasiment en first down, que tu insistes dessus. Voilà, c'était peut-être qu'à posteriori, les Chiefs en courant plus auraient gagné ce match. Maintenant, ils sont allés là-dedans. Bon. Et puis, je sais pas, peut-être que l'euphorie du match, il y a un moment où aussi le coach se stimule eux-mêmes dans cette euphorie, dans ce...
Oui, non, mais c'est possible. Après, la fin est folle et c'est au final quand même deux interceptions qui font basculer, enfin, qui scellent le match. Moi, j'étais persuadé que les Chiefs allaient au bout. Enfin, ça me paraissait tellement logique. Tant, ça envoyait dans tous les sens, ça marque, ça remarque, etc. En plus, ils ont quand même deux chances dans les deux dernières minutes. Ouais. Ils récupèrent le ballon. Donc, au final, ça se termine quand même sur de la défense. Il y a deux interceptions. Il y a Marcus Peters d'ailleurs qui intercepte son ancienne équipe. Il y a les Rams qui provoquent, parce que ça se joue sur trois points. Mais les Chiefs ont quand même beaucoup plus de turnovers. Les Rams ont provoqué 2 fumbles et 3 interceptions de Patrick Mahomes. C'est quand même pas anodin, ces 5 ballons ouais. perdus pour Patrick Mahomes. Alors on va pas l'enterrer, il est toujours dans la course au MVP, etc. Mais c'est quand même aussi un match formateur pour lui à ce niveau-là, parce que finalement c'était un gros match en prime time, avec beaucoup de monde qui regardait, beaucoup de points, une belle opposition. Et dans le feu du moment, j'ai envie de dire, bah, il a quand même lâché 5 ballons, quoi.
Ouais, il a lâché 5 ballons, mais comme tu dis, ça peut être un match apprentissage pour lui, dans le sens où il s'est peut-être rendu compte qu'à certains moments, il aurait mieux fait de prendre un sac, mieux fait de jeter une passe, plutôt que de chercher à continuer l'action, continuer s'échapper un peu, et lancer des passes hasardeuses. Je pense notamment vraiment à sa dernière interception qui est moche, parce qu'encore, celle de Marcus Peters, on voit que le linebacker et Bookham le touchent un peu, donc je pense que le ballon est plus ou moins dévié, ça passe, voilà. Mais sur la toute dernière, à mon sens, il prend trop de risques. Bon, après, dans les dernières minutes, c'est aussi difficile de le critiquer pour ça, mais comme tu dis, il y a un aspect apprentissage. Vaut mieux que ces 5 pertes de ballon arrivent maintenant en saison régulière que en finale AFC, en divisional, etc. Donc s'il arrive à retenir un peu les enseignements de ce match, ça peut être que tout bon pour lui, qui n'en est qu'à sa première saison, rappelons-le tout de même, hein. Donc difficile, enfin voilà, ça fait partie de l'apprentissage, comme tu dis.
Pour les Rams, on s'est pas mal posé de questions sur cette défense ces dernières semaines. J'ai l'impression qu'on a un peu la réponse, au sens c'est une défense de playmaker, quoi. Ils vont pas stopper tout le monde, mais ils ont des playmakers.
C'est ça, c'est exactement c'est le constat qu'on tirait depuis le début de la saison, où au final, on a vu que c'était une défense qui était plus dans une optique de plier, mais de pas rompre. Et pour ne pas rompre, eh ben, ils comptent sur leur playmaker. Aaron Donald qui fait 2 sacks, mais en plus de faire 2 sacks, à chaque fois, ces sacs provoquent une perte de balle de Patrick Mahomes. Peters qui est là pour l'interception, la Marcus Joyner aussi. Voilà, c'est une équipe qui maintenant semble aller dans cette philosophie-là. Ça leur avait pas réussi contre les Saints parce qu'ils n'avaient pas créé justement ces deux, trois turnovers décisifs. Là, ça passe. Donc, j'ai un peu l'impression qu'ils vont mourir et vivre de ça. Et ils peuvent d'autant plus se le permettre parce qu'ils ont une attaque qui est capable de mettre 50 points.
Oui. Ah oui, non, mais complètement. Mais après, moi, si je peux me permettre, je dirais même pas plier pour pas rompre, parce qu'ils plient et ils rompent souvent. Ils prennent des touchdowns, ils prennent des longs touchdowns. C'est juste que de temps en temps, ils vont aller en gratter en terrain adverse, provoquer un fumble, intercepter un mec. C'est vraiment plus être opportuniste par moment. Ça rappelle un peu d'ailleurs la défense des Saints l'année où ils gagnent le titre, je crois, qui est pas forcément exceptionnelle, mais qui va gratter des trucs pendant les playoffs, qui provoque des pertes de balles, etc. Et c'est sûr que si Aaron Donald continue à mettre 2 sacks par match et en arracher un ou deux à chaque fois, c'est déjà un sacré avantage au final.
Ouais, non, c'est ça. C'est un sacré avantage. Et c'est, à mon sens, une philosophie défensive qui est encore plus permise parce qu'ils ont l'attaque derrière qui peut assurer, qui transforme ses pertes de balles en points. Donc, c'est d'autant plus facile de te dire, bon, tant pis, il y a des drives, on va se prendre des points. Mais quand il faudra, je fais confiance à mes playmakers pour faire les stops décisifs au bon moment. Et en plus, je fais confiance à mon attaque pour de toute manière me laisser tout le temps dans le match.
C'est un peu l'anti-Jaguars, si on voulait faire un petit teasing méchant pour la suite. Ouais. Est-ce qu'on a, dernière question, est-ce qu'on a les 2 meilleures équipes de la Ligue avec ou derrière les Saints?
Pour moi, derrière les Saints, parce que depuis ce début de saison, je trouve que la défense des Saints, pour le coup, apporte plus de garanties, notamment contre le jeu au sol, où la défense des Saints est vraiment impériale contre la course. Et à ce niveau-là, c'est souvent un truc qui peut faire la différence. Donc, je mettrais les Saints parce que plus équilibrés devant.
Même chose. On enchaîne avec Ravens 24, Bengals 21. Alors, on va pas vous mentir, ça devait être le match affiche numéro 1 de cette émission. On avait même prévu un petit visuel. Je remercie Ben qui avait déjà préparé un petit visuel avec Lamar Jackson marqué court toujours dessus. Ça devait être le titre de l'émission. Tout était prêt. Mais les Rams et les Chiefs ont décidé autrement. Ça reste quand même une rencontre très intéressante parce qu'on a vu donc les débuts de Lamar Jackson. 5e quarterback rookie sélectionné au premier tour à faire ses débuts cette saison. C'est un record. Et puis surtout d'autres records. Premier drive, 11 courses de suite sans la moindre passe. Touchdown. C'était un peu le plan de jeu, ouais. En tout cas il y avait des read options, 27 courses pour Lamar Jackson, c'est tout simplement un record pour un quarterback, l'ancien record c'était Tim Tebow avec 22 courses, 117 yards au sol pour le quarterback, Lamar Jackson c'est du jamais vu pour un lanceur ces 4 dernières années. Petite précision quand même tout de suite, il y a Gus Edwards, un autre rookie non drafté lui, qui fait un gros match, 115 yards au sol pour les Ravens, c'est un coureur, et ça leur fait 256 yards au sol au total et 38 minutes de possession, difficile de faire plus inverse que le match dont on vient de parler.
Oui, là, clairement, on a eu une équipe dont le plan de jeu était absolument d'insister au sol pour profiter des problèmes de défense des Bengals, notamment en termes de plaquage, qui ont encore une fois été assez criantes. Un plan de jeu plutôt intéressant quand même pour les, comme tu le disais, beaucoup de red option pour les Ravens. Ils ont vraiment profité de la menace qu'apporte Lamar Jackson, parce qu'au final, dès qu'il prend le ballon, tu ne sais pas s'il va courir, passer. Et c'est vrai que ça comparé à un Joe Flacco beaucoup plus statique dans sa poche, forcément ça apporte une menace en plus et ça rend peut-être la lecture pour les défenses adverses un poil plus difficile. Je l'ai trouvé en plus globalement, Lamar Jackson, même dans ses lancers, je l'ai trouvé plutôt bon. Après, les Ravens n'ont pas beaucoup insisté, j'ai trouvé, sur des passes en profondeur, mais ça va peut-être venir puisqu'il semble que Joe Flacco sera parmi pour la semaine prochaine, donc on devrait encore avoir Lamar Jackson.
Oui, ils n'ont pas insisté. Clairement, sur la profondeur, il est à 13 sur 19, 150 yards d'une interception, et clairement, c'était un plan de jeu prudent.
Oui, ouais. C'était un plan de jeu un peu minimaliste pour ne pas prendre de risques et qui était valable en plus par rapport, je trouve, à cette défense des Bengals. Hein. Donc,
C'est ce que j'allais te demander à la base. Est-ce qu'on dit d'abord merci à la défense des Bengals, ou alors est-ce que c'était du grand Lamar Jackson?
Un peu des deux, enfin du grand, non, j'irai pas jusqu'à du grand, mais c'était du bon Lamar Jackson. Moi, je trouvais quand même que malgré tout, c'était pas mal ce qu'il a fait, et que c'était effectivement facilité par une défense des Bengals qui est à la rue globalement depuis le début de la saison, que ce soit contre le sol ou même contre la passe, il y a des difficultés. Donc, c'est forcément un peu des deux, mais en tout cas, c'est intéressant pour les Ravens de voir qu'ils peuvent peut-être. Je pense que Joe Flacco, s'il revient, va finir la saison. J'ai du mal à voir Baltimore mettre Joe Flacco sur le banc.
C'est ce que j'allais te demander. Moi, j'ai tendance à dire que s'il en gagne un deuxième de suite...
Je suis pas certain quand même de voir. Par contre, qu'on voit un peu plus de Lamar Jackson, qu'on le voit un peu plus utilisé au cours des matchs que ce qu'il n'a été jusque-là, ça, je serais pas étonné. Je pense quand même que Flacco reprendra son poste de titulaire. Parce que je suis pas sûr quand même qu'en NFL tu puisses gagner en faisant courir 27 fois ton quarterback. J'ai quand même un doute.
Alors, est-ce que tu es d'accord avec Marvin Lewis qui dit justement à un moment il va se blesser?
Je sais pas, mais pour le coup, je serais plutôt d'accord avec Marvin Lewis. Ça me semble compliqué que la pièce maîtresse de ton attaque prenne autant de snaps, enfin soit autant actif sur autant de snaps. Parce que mine de rien, tu fais courir ton quarterback 27 fois, tu le fais se mettre en activité. Ça veut pas dire que les quarterbacks, quand ils passent la balle à leur coureur, se mettent pas en activité, mais je veux dire, c'est de l'influx d'énergie, c'est des chocs, c'est quand même plus éprouvant physiquement, mine de rien.
Ouais, non, mais clairement, si tu additionnes les 27 courses et les 19 passes, en effet, il est actif sur quasiment 50 snaps.
Voilà, ce qui est énorme pour un quarterback d'être actif à ce point-là. Donc, j'ai peur que sur toute une saison, ce soit compliqué. Après, s'il venait à être titulaire, ça ne veut pas dire que les Ravens l'utiliseraient toujours autant à la course non plus. Tu vois, je pense que
oui.
Ils trouveront.
On rappelle, 27, c'était du jamais vu. Hein,
ouais, voilà. Ils trouveront un entre-deux. Donc, bon.
Oui, non, mais clairement, il n'y a pas de. Il n'y aura pas une utilisation aussi intensive. Moi, je te dis, je suis pas. L'effet de masse, l'effet de supporters, etc., et de dynamique. On s'est bien retrouvé avec un Thibaut titulaire à une époque. Je me demande s'il en enchaîne, je sais pas, deux ou trois, s'il ne serait pas tenté de le laisser. Alors après, encore une fois, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Pour l'instant, ça reste quand même assez limité. Et puis sur le fait des blessures et tout, qui suis-je pour lui dire ça, hein. J'ai pas à juger, mais ce n'est pas non plus le physique le plus costaud de la NFL. Donc pour en plus prendre les shoots qu'il va prendre, ce n'est pas Cam Newton, quoi. Qui est quand même beaucoup plus épais. Donc,
ouais, et même
donc,
Cam Newton n'en prend pas 27 courses. Hein, donc,
Non, mais c'est ça, voilà. Et même Cam Newton a arrêté d'en prendre autant. Il en prend beaucoup moins cette année. Donc c'est vrai que ça ne va pas être tenable. Après, voilà, moi, je suis pas hyper convaincu sur la passe, mais je les soupçonne de pouvoir le faire. Et puis, on l'a dit, hein, donc ils sont trouvé un coureur rookie, Gus Edwards, donc ça va être intéressant.
Qui d'ailleurs, Gus Edwards, ça avait été un très très bon pendant la pré-saison. C'était blessé l'avant-dernier match ou le dernier match de pré-saison et était revenu et vient juste de revenir, donc à surveiller aussi.
Les Bengals, ils étaient dans ce match quand même. Ils ont manqué un field goal de 52 yards pour l'égalisation. AJ Green n'était pas là quand même, mais ils ont quand même que 255 yards au total. Il y avait la bonne défense de Baltimore en face, donc ça a aussi aidé Lamar Jackson à être plus serein. Redskins 21, Texans 23, c'est la blessure de la semaine. Alex Smith, fracture tibia fibula, parce que quand on est jeune, on dit fibula et puis péroné. La saison est terminée. Je dis ça pour nous deux, Raphaël. Je sais que tu as dit tibia péroné quand on a parlé l'autre jour.
Ouais, je savais pas qu'on.
Ben voilà, mais même moi, je te dis ça.
Mais qu'est devenu le péroné alors?
Je sais pas. je suis comme toi, je suis un vieux, je disais péroné aussi. Est-ce qu'on croit en Colt McCoy pour mener cette équipe en playoff, Raphaël?
Est-ce qu'on y croit? Pas spécialement, forcément. Moi, ça m'a semblé être un gros coup de massue pour une équipe qui était en tête de la NFC Est, qui avait potentiellement un peu de marge avec un Alex Smith plutôt propre, qui perdait pas trop de ballons. Enfin, ils étaient vraiment sur une dynamique plutôt convaincante. Colt McCoy, on a quand même pas énormément de vidéos, c'est un grand mot, mais on sait pas trop ce qu'il va pouvoir donner. Après,
ça fait longtemps.
Là où peut-être que ça peut quand même le faire, c'est que c'est une attaque qui de toute manière se base sur son jeu au sol d'abord pour l'emporter, donc il peut être utilisé intelligemment. En plus, on a vu que mine de rien, il bougeait pas mal aussi dans la poche, il a montré quelques trucs, et j'irais même jusqu'à dire que le Colt McCoy qu'on a vu jusque là est pas foncièrement beaucoup moins bon que le Alex Smith qu'on avait depuis le début de saison.
Et bah c'est ce que j'allais te dire, j'allais me faire l'avocat du diable. Smith, cette saison, alors déjà il a lancé deux interceptions, dont un pick six avant de se casser la jambe. Et si McCoy est protégé et que Peterson gagne du terrain, Smith c'est 10 touchdowns pour 5 interceptions cette saison, il était à 85 d'éval, c'était sa plus petite évaluation depuis 2010. Cette saison, donc il était clairement pas exceptionnel, c'était pas vraiment le Alex Smith des Chiefs. On sent qu'il y a quand même plus Andy Reid et toutes les armes qu'il y avait autour derrière. Et Colt McCoy, alors comme tu dis, il est un peu mobile, il peut faire à peu près ce que fait Smith en moins bien, on va dire. C'est un peu dans le même moule,
ouais,
mais
ça,
c'est pas une énormissime baisse, j'ai envie de dire. C'est pas Nathan Peterman, enfin il est à peu près cohérent. Alors je suis allé creuser, McCoy, c'est un ancien de Texas, hein, il avait des grosses stats universitaires en l'occurrence, 27 touchdowns pour 23 interceptions en carrière. Et alors là, je t'ai ressorti une pépite, Raphaël. Je crois que non, on n'avait même pas le podcast. Tiens, je croyais qu'on allait, que c'était la première saison, mais même pas, c'était l'année d'avant. En 2010, il a mené les Browns à une victoire face aux Patriots.
Ah bah comme quoi.
Est-ce que tu te rappelles qui était le meilleur coureur dans ce match chez les Browns?
Ah, c'était pas le Peyton Hillis?
C'était Peyton Hillis,
ouais.
Qui a claqué 184 yards sur les Patriots.
Ouais.
Et qui jouait dans ce match côté Patriots? Aaron Hernandez. Donc ça nous ramène assez loin.
Ouais.
Et il avait quand même mené les Browns à 4 victoires la saison suivante en 2011, ce qui peut paraître peu, mais qui paraît quand même plus que 3 ans de Hugh Jackson.
C'est vrai.
Donc c'est quand même pas mal. Il avait mené les Browns à 4 victoires, ce qui est quand même assez énorme. Mais oui, c'est un coup dur. Après, c'est un coup dur pour Smith. Ça fait toujours mal de
oui,
voir des
ouais,
blessures.
Ouais.
C'est terrible hein, de voir une blessure pareille. Mais dans une NFC Est qui est tellement incertaine, ils sont pas largués quoi.
C'est ça, ils ont toujours un match d'avance, ils ont, on va dire, en quelque sorte leur destin en main parce qu'ils rencontrent encore leurs adversaires de division et que globalement ils ont un bilan positif dans la division.
Le Cowboys Redskins à Thanksgiving là, ça va coûter très cher. Hein.
C'est clairement un des gros matchs, surtout je pense si les Redskins le perdent en termes de dynamique derrière pour se relever, ça va être compliqué. Mais comme tu dis, ils ont quand même une défense qui montre des belles choses. Ils vont avoir besoin de leur jeu au sol. Voilà.
Ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, Adrian Peterson, 105e touchdown en carrière, ou 107e, je ne sais plus, bref. Il a passé Jim Brown, qui était à 106, donc ça doit être 107 pour Peterson. Il est à 105, il passe 6e de l'histoire, et il revient sur Jim Brown, qui est à 106, et Walter Payton à 110, donc il devrait les passer.
Ouais.
Et continuer, Adrian Peterson, carrière légendaire. Un mot sur Houston quand même, première équipe à gagner 7 matchs de suite après un 0-3 en ouverture de la saison. C'est pas de la belle victoire, ils continuent à vraiment gratter des matchs parce qu'ils gagnent encore sur un field goal qui est manqué par l'équipe adverse en fin de match. Ils ont quand même un peu tremblé. Il y a deux interceptions pour Watson, il y a encore des blessures sur la ligne, il y a des field goals ratés. Lamar Miller a gratté des yards, mais c'est pas joli joli, mais ça passe.
Ouais, comme tu dis, c'est pas très joli, ça passe parce que leur défense tire enfin son... J'ai presque envie de dire... peut-être pas son plein potentiel, mais c'est vraiment une défense des Texans solide comme on l'attendait depuis plusieurs saisons. Retour de JJ Watt, son association avec Clooney, qui est enfin au niveau, c'était déjà le cas l'an dernier, mais voilà, qui le confirme. Donc, tu as une défense vraiment solide pour le coup. Et derrière, tu as des coups d'éclat de DeAndre Hopkins, quelques bonnes actions de Watson, même si sur ce match, il est vraiment pas aidé par sa ligne, pas forcément même bon dans ses lectures, mais voilà, c'est une équipe qui est capable de faire quelques coups d'éclat, qui reste dans le match grâce à sa défense, et en NFL, ça peut suffire à empiler les victoires. Donc c'est... Après, ils sont à 7-3, donc c'est une bonne équipe. Hein. On va pas leur... Pour moi, c'est une défense actuellement qui est largement top 10, voire peut-être même top 5 réellement sur le début de la saison. Donc c'est mérité. Hein. C'est...
Et eux aussi, ils sont bien placés dans leur division, sans les blesser en plus, dans une AFC Sud qui devient de plus en plus compliquée à évaluer. On en reparlera un peu plus tard avec le Colts Titans. Petit jingle et la suite des résumés.
Roethlisberger's bounce back from a dreadful performance most of the way, coming up big. Running like an option, going to keep the dives. Did he break it? Yes, he did. Touchdown, Pittsburgh.
Autre petit secret de fabrication, ce jingle devait être celui d'ouverture du podcast, mais encore une fois, les Rams et les Chiefs ont tout perturbé. Falcons 19, alors non, tiens, on va commencer par ça. Jaguars 16, Steelers 20, les Jaguars avaient-ils un quarterback sur le terrain? C'est quand même la question qui se pose après ce match. Ils menaient 16-0, ils ont intercepté 3 fois Ben Roethlisberger et ils n'ont pas été foutus de boucler ce match. Peut-être parce qu'ils ont le plan de jeu le plus prévisible du monde, Raphaël?
Je sais pas si c'est le plus prévisible, mais c'en est sans doute pas loin. Effectivement, quand tu vois en termes de... Alors oui, le quarterback te permet pas de peut-être jouer comme les Rams ou les Chiefs. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un entre-deux en termes de capacité et de playbook offensif, on va dire. C'est une victoire vraiment... comment dire? Le mauvais côté de la pièce Jaguars dont on pouvait s'attendre, quoi, c'est que même quand la défense, et dont toi t'avais effectivement parlé dès le début de saison, la défense là, même en faisant son match, son meilleur match depuis 4-5 semaines, c'est pas suffisant pour battre des Steelers en grande difficulté, parce qu'ils sont tués effectivement par cette attaque, et que là voilà, oui, que Jacksonville paye.
Tu sais que sur 4 de leurs 9 dernières possessions, ils terminent en négatif dans les yards et 74 yards en tout sur la deuxième mi-temps. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils font même plus semblant d'essayer de passer, quoi. C'est-à-dire que c'est course, course, punt, course, course, punt. Bon, allez les gars, vous rattraperez pas, quoi. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est Antonio Brown et Ben Roethlisberger en face. Roethlisberger, il a quand même cette qualité qu'il peut lancer 12 interceptions à la fin du match, il continuera à lancer. Hein. S'il faut aller chercher un match, il a pas peur. Les deux derniers drives des Steelers, c'est 148 yards en 4 minutes. Voilà. Pour dire quand même le niveau de confiance du gars, avec des pénalités de Jacksonville en plus, qui ont bien aidé. Pittsburgh avait gagné seulement 53 yards en première mi-temps, ils en gagnent 261 en deuxième. Donc voilà, mais c'est avoir un franchise quarterback et des bons receveurs. Ça change tout en fin de match. Et c'est ce que les Jaguars n'ont pas et il leur faut. Moi, ça m'a rappelé un peu le Super Bowl 50, quand les Broncos avaient l'avantage et qu'ils faisaient course, course, punt, course, course, punt, en disant de toute façon, les mecs, ils marqueront jamais. Nous, on a Von Miller, on a tous les mecs, ça marquait pas. Sauf que là, bah, malheureusement pour eux, les Jaguars, ils ont tenu 58 minutes, quoi, grosso modo. Jalen Ramsey, c'est dur pour lui. Hein. Il prend le touchdown, un des touchdowns à la fin, alors qu'il signe 2 interceptions, qu'il est énorme.
Ouais, qu'il fait un match très costaud. Il fait un très bon match, ouais.
Mais voilà, c'est hyper compliqué. La défense, il n'y a quand même pas grand-chose à leur reprocher. Ils maintiennent les Steelers à 20 points. C'est quand même une bonne attaque des Steelers, quoi, cette saison.
Ouais, donc, ouais.
Vas-y.
Oui, non, comme tu dis, ils maintiennent les Steelers à 20 points. Et encore, si on peut imaginer que l'attaque avait su avancer, Pittsburgh aurait peut-être même pas eu le... Enfin, donc en plus, comme tu dis, c'est un match que les Jaguars devaient remporter s'ils avaient eu un minimum d'offense, d'attaque... susceptible de juste faire avancer la balle. Le problème, c'est que rien n'a été entre le jeu de passe catastrophique où t'as un Bortles qui fait encore 104 yards en 10 passes réussies. Leonard Fournette fait un match pas mauvais, d'autant plus que sa ligne offensive est en grande difficulté pour le coup. Vraiment, le front seven des Steelers a dominé totalement la guerre de tranchées, on va dire. Mais non, c'est...
Non,
c'est
mais une... oui. C'est hop là. Mais c'est clairement c'est unidimensionnel comme tu dis. Bon, Fournette, il se débrouille, il fait ce qu'il peut, mais là ça a vraiment été fatal quoi. Ben Roethlisberger par contre pour la stat, hein, il a un petit problème à l'extérieur depuis 2014. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé en plus dans l'émission.
Ouais,
il y a 104.3 d'éval à la maison, 87.2 à l'extérieur et il y a 8 points de différence sur la moyenne de l'attaque. Donc il va falloir apprendre à voyager un peu plus pour les playoffs parce que s'ils n'ont pas la première tête de série, ça va être compliqué. Falcons 19, Cowboys 22, tout va vite en NFL. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, Jason Garrett était sur un siège éjectable. Depuis, Ezekiel Elliott enchaîne les gros matchs, 201 yards cumulés. Amari Cooper apporte de l'air, Leighton Vander Esch met encore une interception. C'est étrange parce qu'il gagne deux matchs de suite alors que la défense est à 387 yards encaissés en moyenne sur ces deux matchs. Mais ils se sont quand même trouvé une identité, alors qu'on leur connaissait déjà, hein, mais ils font bien le jeu au sol plus la défense, quoi.
Bah, une identité qu'ils réassument peut-être plus qu'en début de saison, en fait, qui avait été les clés de leur succès il y a deux ans, quand Ezekiel Elliott et Dak Prescott avaient été tous les deux au coude à coude pour le titre de rookie de l'année, etc. Ils sont revenus depuis trois semaines à un jeu au sol vraiment massif où ils nourrissent Elliott autant que possible. Il a 23 portées, il touche 7 réceptions, donc vraiment ils en font la pièce maîtresse de cette attaque et à raison parce que ce joueur est vraiment pétri de talent et qu'il fait la différence. Et donc forcément t'as un jeu offensif qui va dans le bon sens, un Dak Prescott qui est plus propre, qui à mon sens est toujours pas exceptionnel, au moins ne perd pas la balle, donc voilà, ça permet à l'équipe d'avancer. Et puis en défense, ils se basent sur comme tu l'as dit leur nouvelle escouade, c'est un grand mot, mais leur escouade de linebacker où t'as Vander Esch et t'as
Jalen Smith,
voilà, j'avais le Smith mais j'avais plus le prénom en tête, qui fait beaucoup de bien. T'as un Demarcus Lawrence qui est toujours aussi présent sur la ligne défensive. Et les Cowboys ont intérêt à le re-signer à l'intersaison parce que cette année, il joue sous franchise tag. Mais c'est sûr que s'il ne lui place pas le tag dessus, il va en avoir de la proposition. Donc voilà, ils sont sur une très bonne dynamique. Ils ne sont plus qu'à un match des Redskins. Ils les affrontent jeudi face à une équipe qui vient de perdre son quarterback titulaire, même si on a dit que ce n'était peut-être pas si grave que ça. Clairement, ils semblent avoir leur destin en main, quoi.
Et voilà comment Jason Garrett se sauve pour une saison de plus. Ezekiel Elliott, j'ai vu ça, il est quand même à 4540 yards et 32 touchdowns sur ses 35 premiers matchs. Il a des stats qui sont énormissimes sur son début de carrière. Un mot sur les Falcons, quatrième défaite sur 6 matchs décidés dans les dernières minutes. Ils ont du mal à les boucler aussi, hein, ces rencontres serrées. On a déjà dit beaucoup de choses sur l'attaque et la défense, mais il y a aussi ce facteur clutch, j'ai envie de dire, d'Atlanta là, qui passe pas cette année.
T'as tout dit. Je pense qu'il manque peut-être de quelques playmakers en défense qui faisaient la différence. Je pense notamment à un Dayon Jones en linebacker qui joue pas, qui lui avait cette capacité à créer des turnovers décisifs. Et voilà. Mais du coup, les playoffs sont vraiment morts pour les Falcons, je pense, cette fois.
Ouais, là, ça commence à être fini, en effet. Colts 38, Titans 10, 7e match de suite avec au moins 3 touchdowns pour Andrew Luck. 5e match de suite sans sac. Faut mentionner quand même aussi la défense. Et un nom qu'on n'a pas beaucoup prononcé, je crois, mais c'est Matt Eberflus. On dirait un sketch des Romains des Bois. Matt Eberflus, qui était arrivé quand même à la base pour bosser avec Josh McDaniels et qui était resté quand McDaniels a fait demi-tour et que Frank Reich est arrivé. Finalement, c'est quand même une très bonne pioche aussi, ce coordinateur défensif, parce que Tennessee est limité à 263 yards dans ce match.
Et ce qui prouve aussi toute l'intelligence et que moi je commence vraiment à de plus en plus apprécier Frank Reich, le nouveau coach des Colts. Parce qu'en arrivant comme ça à Indianapolis, en prenant la place d'un McDaniels, il aurait pu choisir la solution de facilité, se débarrasser des hommes que voulait McDaniels. Lui a eu l'intelligence de garder le coordinateur défensif. Donc c'est aussi une preuve d'intelligence, clairement, de Frank Reich. Et quand on voit comment ça tourne au niveau coaching côté Eagles, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe côté Colts.
Ouais. Le parallèle est intéressant.
Donc voilà, et comme tu dis, c'est une équipe des Colts qui est vraiment plaisante à regarder parce que là, t'as enfin une bonne protection pour Andrew Luck. Donc le quarterback se régale avec un T.Y. Hilton, encore une fois monstrueux, qui fait lui aussi beaucoup de bien quand il est revenu de sa blessure cette saison. Ça étire l'attaque des Colts. Et une draft, globalement, c'est une draft réussie, mais on l'a déjà dit, une draft réussie par les Colts qui permet tout de suite de poser des fondations solides. Et une équipe qui est mine de rien, qui est pas morte pour aller chercher une petite place en wild card.
Ouais, non, ils reviennent largement. Ils ont gagné 4 de suite, si je dis pas de bêtises.
Ils sont à 5-5.
Et donc, tu citais la draft, hein, Darius Leonard qui se fait encore remarquer, un sac, un fumble forcé, une interception. Donc, ils ont avancé, je trouve. Leur draft, en fait, leur a fait gagner peut-être un an ou deux sur la reconstruction.
C'est ça, ouais. S'ils confirment vraiment... derrière, ils ont, comme tu dis, ils ont gagné un an facile.
Et la stat, tu parlais de Frank Reich et de l'effet sur l'attaque. Ils sont à 7 matchs de suite avec au moins 24 points. Alors ça paye pas de mine, mais c'est quand même du jamais vu pour les Colts depuis 2005, à l'époque où Peyton Manning était là. Et il a quand même eu quelques années derrière, hein, Peyton Manning.
Ouais,
donc
bah ouais,
7 de suite à plus de 24, c'est quand même du très très haut niveau. Et dans la régularité, c'est très très fort. En parlant de régularité, évidemment, c'est pas le fort de Tennessee. On l'a dit, 263 yards. Et alors là, vrai jour sans, parce qu'on a eu Marcus Mariota blessé. On a eu Dean Pease, le coordinateur offensif, qui part à l'hôpital en plein milieu du premier carton. Donc là, c'est... Moi, j'ai du mal avec cette équipe de Tennessee. J'ai souvent eu du mal. Et ils font un peu ce qu'on leur reproche. C'est-à-dire que quand on commence à avoir confiance, eh ben, ils nous refont ça.
Ouais, eux, là, cette saison, c'est clairement ça. C'est une équipe, comme tu dis, qui est vraiment difficile à analyser parce qu'ils vont battre les Patriots, ils vont battre les Eagles. Bon, alors, les Eagles sont un peu en difficulté, mais ils ont battu des équipes qui étaient favorites face à eux. Et par contre, ils vont perdre contre les Dolphins, ils perdent là contre les Colts. On sait pas sur quel pied danser. Un coup, la défense est bonne, un coup, elle se fait trouer comme là. En attaque, on pensait que depuis 2-3 semaines, c'était mieux pour Mariota. Bon, bah là, il se blesse. Mais même avant de se blesser, il était pas bon dans ce match.
Et ça commence à faire beaucoup de blessures, hein, pour Mariota. Je l'ai mis sur le site, mais il a jamais joué une saison complète. Il a toujours un petit truc qui va pas, sortir, revenir. C'est ça.
Ouais.
C'est pas rassurant quand même.
C'est pas rassurant. Puis là, il réussit pas à avoir cette régularité et que les Titans tout simplement n'arrivent pas à avoir. Du coup, c'est vrai qu'on a du mal à savoir comment analyser cette équipe qui est totalement irrégulière et qu'en plus c'est irrégulière. Elle est pas juste mauvaise contre les très bonnes équipes et bonne contre les mauvaises. C'est même plutôt l'inverse. Donc.
Oui, c'est très bizarre.
Ouais.
C'est franchement assez bizarre à ce niveau-là. Lions 20, Panthers 19, tenter à 2 points ou ne pas tenter à 2 points. Telle est la question. Après ces matchs-là, on se pose à chaque fois la question. Ron Rivera a donc décidé de tenter à 2 points en fin de match pour gagner plutôt que d'égaliser. Mmh. Raphaël, est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que tu l'aurais fait?
Je pense que je l'aurais fait à la place de Rivera. Il était dans un match où vraiment son kicker avait raté tous ses coups de pied, avait déjà raté un extra point. Enfin, non, il avait réussi un coup de pied, mais de justesse. Il avait raté un extra point, un autre field goal. Il a peut-être senti que son kicker était juste pas dans une bonne journée, allait pas le faire. Et plutôt que de perdre sur un extra point raté, il s'est peut-être dit, je préfère perdre en donnant le ballon à Cam Newton, ce que je peux comprendre aussi à quelque part.
D'autant que l'action est là, hein. Newton rate la passe, mais l'action elle est là, hein. Il a du temps pour lancer,
ouais,
le receveur passe, il rate un peu sa passe.
Après, du coup, je suis peut-être un peu moins convaincu encore une fois par le play call. Moi, j'aurais peut-être plus vu une course de Newton, une play action, ou enfin voilà, j'aurais peut-être plus vraiment mis le ballon dans les mains de Newton et de son physique. Mais bon, c'est un détail. Après, c'est pas du poker, mais bon, voilà, il tente un truc, ça le rate. Mais je peux comprendre l'idée de Ron Rivera.
C'est à l'extérieur, il a dit, moi quand je joue à l'extérieur, je tente à 2 points pour gagner, mais je suis plus pour le coup dans ton raisonnement à toi, je pense qu'il est quand même super influencé par les prestations du kicker qui a raté un extra point juste avant.
Si Graham Gano, surtout que Graham Gano, par exemple, rappelons-le, cette saison à Carolina a réussi un field goal de 63 yards pour battre les Giants sur le fil, donc il sait que son kicker peut mettre les extra points. Si là il n'y est pas allé, c'est qu'il sentait que son kicker était pas dans un bon jour et qu'il voulait pas lui mettre encore plus de pression, peut-être, tu vois. Donc moi
je pense qu'il y a vraiment un peu des deux, quoi. Il fait confiance à Newton et l'autre s'est un peu raté avant, donc voilà. Bon, un à qui il faudrait pas trop faire confiance, c'est en tout cas en ce moment, c'est Devin Funchess. Juste pour la stat, il est ciblé 8 fois et il en capte que 2 avec quelques drops. On parlait d'équipes difficiles à cerner avec Tennessee. Alors là, les Lions, c'est quand même du très haut à ce niveau là c'est à dire que à domicile maintenant, leur tableau de chasse, c'est Patriots, Packers, Panthers.
Voilà,
propre. Ouais. Par contre, ils mettent pas un pied devant l'autre quand ils jouent d'autres équipes. La bonne nouvelle de ce match, c'est quand même Kenny Golladay, 113 yards sur 8 réceptions avec un touchdown. Ils ont vraiment trouvé leur receveur numéro 1 là.
Ouais, c'est une bonne nouvelle parce qu'en ayant échangé Golden Tate il y a quelques semaines, on pouvait justement craindre que les Lions et Matthew Stafford se retrouvent sans playmaker. en attaque en dehors de leur quarterback. Golladay prouve qu'il a le niveau a priori pour être un receveur numéro 1, donc il va falloir le confirmer sur la durée, mais en tout cas c'est positif. Et après, comme tu dis, c'est une équipe des Lions, on sait pas quoi, au même niveau que les Titans, on sait pas quoi en penser. Il y a des trous dans l'effectif, mais ils sont quand même capables d'aller chercher des victoires comme ça. Ouais, il y a un moment, c'est à part être juste régulier, je sais pas ce qu'on peut dire de plus, quoi. Enfin...
C'est l'histoire des Lions depuis 5 ou 10 ans, quoi. Ils ont des bonnes armes, mais ils sont pas réguliers. La stat qui inquiète pour Carolina, qui est toujours sur un strapantin pour les wildcards actuellement, c'est quand même qu'ils sont à 1 victoire 4 défaites à l'extérieur et que leurs 3 prochains matchs sont à l'extérieur. Donc il va falloir... quand même les gagner ces matchs-là. Alors je crois que c'est pas trop compliqué sur le calendrier immédiat, mais ils terminent par 2 fois Saints et 1 fois Falcons sur les 3 derniers matchs, donc il y a intérêt à faire le plein maintenant, parce que ça va pas être dans les dernières semaines que ça va se faciliter. Chargers 22, Broncos 23, 479 yards à 250 après 58 minutes pour les Chargers, et ils ont perdu. C'était du Chargers un peu vintage, hein. On parlait des Titans qui nous ont fait un petit vintage aussi, sur un field goal en fin de match, un extra point manqué dans un match perdu d'un point, hein, au passage, 14 pénalités, un fake punt autorisé pour la deuxième semaine de suite. C'était un match un peu à la Chargers. C'est Von Miller, hein, qui a réveillé les Broncos avec une interception, parce que donc Los Angeles était devant, et Case Keenum, qui avait 59 yards à la passe en début de dernier quart, va chercher la victoire finalement avec un coup de main de Philip Lindsay au sol. C'est quand même un match que les Chargers doivent pas perdre, on est d'accord ?
Ouais, globalement, c'est un match que les Chargers doivent pas perdre, même si côté Broncos, il y a eu quelques erreurs de coaching qui ont bien aussi aidé. Je pense notamment à Vance Joseph qui choisit de ne pas jouer un field goal en premier quart, alors que Denver mène 3-0 et derrière, ils perdent la balle sur une quatrième. Enfin bref, ils doivent pas le perdre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pénalités. Sur le papier, ils sont meilleurs. Il y a beaucoup de pénalités, comme tu l'as dit, côté Chargers, avec d'énormes fautes. En plus, ils perdent leur defensive tackle, ce qui les a pas aidés, cela dit, contre la course. Et ils ont eu du mal contre Royce Freeman et Philip Lindsay. Mais oui, je te rejoins sur le fait que Los Angeles, pardon, ne doit pas perdre, ce match. Maintenant, côté Denver, c'est un peu la recette. C'est pas surprenant que Denver arrive à aller chercher quelques matchs comme ça, parce qu'il y a malgré tout un front seven qui reste dominant, enfin intéressant globalement, avec Von Miller, comme tu l'as dit, et t'as un jeu au sol qui est capable d'amener des choses par-ci par-là, et Keenum, qui est un quarterback moyen, mais qui peut faire des choses. Donc je suis pas...
Keenum, il aime bien les fins de match. Hein.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Il n'est pas fameux dans les rencontres, mais alors il l'avait déjà montré l'an dernier de temps en temps. Il n'a pas peur dans les fonds de rencontres. Bon, tu l'as dit, ils peuvent en gratter quelques-uns. C'était une rivalité de division, c'est le genre de choses qui arrivent aussi. Saints 48, Eagles 7, 41 points d'écart. C'est la plus grande défaite de l'histoire pour un champion en titre. Et alors, on parlait là, les Saints molestent maintenant leurs adversaires. Ça tourne, c'est de la violence gratuite, quoi. 546 yards à 196. 24-7 à la mi-temps, 321 yards dès la première mi-temps pour les Saints, 77 yards pour Carson Wentz à la pause. Est-ce que l'attaque des Eagles est cassée par les départs de Frank Reich, dont on parlait avec les Colts, et de John DeFilippo qui est parti, je sais, j'ai un trou d'ailleurs, où est-ce qu'il est parti?
DeFilippo, il est parti chez les Vikings, non? Il est parti coordinateur offensif là-bas, de mémoire.
Oui, ça doit être ça. Est-ce que ça manque cruellement à Philadelphie quand même, ces deux hommes?
Bah écoute, manifestement ça a l'air, enfin ça a forcément un impact. Moi la coïncidence me paraît un peu trop grosse pour qu'il n'y ait aucune influence du départ de ces deux hommes sur cette attaque. Peut-être que, mine de rien, Doug Peterson, d'avoir ces deux types-là à côté de lui, ça lui permettait des fois de contrebalancer certains de ses choix, peut-être qu'il discutait plus, alors que là il contrôle vraiment le play call. Il est peut-être moins contrarié, peut-être moins contesté, et ça peut l'enfermer dans une sorte de coaching pas forcément très bon. Après, je pense, à mon sens, c'est quand même pas la seule explication. Tu peux ajouter là, globalement, une ligne offensive qui est moins bonne que l'an passé. On peut ajouter surtout, et je pense que la différence aussi se fait à ce niveau-là, un jeu au sol qui est pas du tout le même que l'an dernier. L'an dernier, ils avaient vraiment réussi à trouver un équilibre entre le Garrett Blount et Jadjaï, un 1-2 puissance, esquive, enfin voilà, qui ne retrouvent pas tout simplement. Ils arrivent plus à installer leur jeu au sol. Et ça devient un peu plus compliqué. Et en plus, là, ils tombent sur une équipe des Saints qui est en mode domination totale. Donc,
Là, ça commence à faire mal. Hein. Juste pour terminer sur les Eagles, Carson Wentz sort son pire match en carrière avec 3 interceptions notamment. Les blessures, en plus, n'aident pas sur leur couverture aérienne. Ils sont décimés. Et c'est ce que tu disais, les Saints sont quand même en fusion.
Ouais.
Qui, avant la saison, quand même, pouvait annoncer un Tre'Quan Smith à 10 réceptions, 157 yards et un touchdown sur un match?
Pas vraiment, de toute manière, avant le début de la saison, personne n'avait la défense des Saints comme la meilleure défense contre la course de la Ligue, en termes de yards encaissés. Voilà, je veux dire, c'est une équipe qui je ne sais pas si elle surperforme, en tout cas qui est excellente dans tous les domaines à l'heure actuelle. Un peu moins contre la passe, mais le front seven est tellement dominant et arrête tellement la course que ça leur permet quand même, ça leur facilite la vie contre la passe. Donc voilà, c'est une équipe qui roule et là, ils sont lancés pour les playoffs, quoi.
Et une stat hallucinante, Michael Thomas est à plus de 80, ou autour de 90% de passes captées quand il est ciblé. Et alors, ouais, ça peut paraître, c'est son boulot, etc. Mais en fait, sur une saison à plus de 1 milliard, la meilleure marque de passes captées, c'est autour de 80% quand le joueur est ciblé.
Ouais, d'accord,
Thomas, ouais, il est à 90% de, quand on le cible, à 90%, il attrape le ballon. Et donc, il est parti sur une saison record. Il serait le premier joueur à réussir à 1 milliard et 90% de passes captées. Ce serait assez délirant. Bears 25, Vikings 20. Les Bears étaient derniers de la NFC Nord ces 4 dernières années. Et les voilà en tête. Et quelle défense! Encore un sac, une passe déviée et un fumble forcé par Khalil Mack. Ils ont très très bien exploité quand même les problèmes de la ligne offensive des Vikings, Raphaël.
Ouais, ils l'ont très, comme tu dis, très bien exploité. Et vraiment, cette capacité qu'ils ont depuis le début de saison et depuis forcément l'arrivée de Khalil Mack à être ultra dominant sur le front seven a vraiment rendu toute leur escouade de safety et de cornerback meilleure, parce que l'an dernier quand même les cornerbacks des Bears étaient globalement critiqués, les safety aussi, et là tout le monde cette saison est au niveau parce que t'as ce front seven qui leur donne, qui force les adversaires à lancer encore plus rapidement, à forcer des passes, et eux sont là pour récupérer les miettes. Donc c'est en termes d'influence, et cette défense des Bears conduite en, on va dire, depuis le banc par Vic Fangio fait vraiment un gros taf, et elle est la clé principale du succès de Chicago cette année.
Clairement, et tu le vois, Dalvin Cook et Latavius Murray, c'est 17 yards sur 13 courses sur ce match en cumulé. Et un problème par contre côté Vikings qui se limite pas à ce match, c'est qu'ils ont perdu 16 ballons cette saison. Et j'ai pas besoin de t'expliquer que toutes les équipes qui sont derrière eux au classement, je crois qu'il y a que 5 équipes qui font pire, elles sont évidemment pas dans la course au play-off. Donc ouais, il va falloir aussi corriger ça pour rester dans la course, parce que tu peux pas perdre autant de ballons et prétendre au play-off.
Ouais,
donc
ouais,
ça on a vu les failles des Vikings hein, clairement sur ce match. Et après tu disais, pour Chicago la défense c'est la grosse force. Maintenant l'axe de progrès ça va être la constance de Mitchell Trubisky qui a 2 interceptions. Alors c'est pas du tout une comparaison directe sur le jeu ou quoi que ce soit. Ce que je dis juste, c'est que le worst case scénario, le pire scénario, c'est il faut pas qu'ils deviennent leur Blake Bortles à eux. Voilà. C'est-à-dire un quarterback un peu mobile, mais limité, avec des grosses erreurs de temps en temps, et qui, avec lequel, du coup, il faut être prudent dans le plan de jeu et qui ne peut pas aller chercher des
matchs.
Ouais,
bien sûr.
Après, encore une fois, il est qu'en deuxième année. Je ne dis pas du tout qu'il se dirige vers ça.
Oui, voilà, c'est ça. Il est qu'en deuxième année. Moi aussi, je ne suis pas convaincu de Trubisky pour le moment, mais force est de constater que pour le moment, en tout cas, il ne fait pas perdre encore spécialement les Bears. Il ne les met pas dans une position délicate. Et je pense la différence aussi avec Blake Bortles à un moment, c'est que lui semble être bien coaché. En tout cas, Matt Nagy semble être un vrai bon coach pour tirer le maximum de son attaque et de Trubisky, ce dont je suis pas persuadé côté Jaguars pour le coup, en termes de play call offensif. Il est très bien, Trubisky est aussi très bien protégé. Tarik Cohen et Howard, ça marche plutôt bien comme doublette en termes de coureurs. Donc voilà, mais ce qui a été vraiment réussi par Chicago, c'est une quasi reconstruction en à peine 2 ans, très réussie, parce qu'au final, ils draftent Trubisky il y a 2 ans. Là, ils font venir Khalil Mack cet été, qui a un énorme impact avec une bonne draft de Roquan Smith, etc. Et t'as des Bears qui sont passés en très peu de temps de dernier de leur division donc c'est quand même une reconstruction réussie à vitesse grand V, quoi.
Mais je crois que ça montre encore l'importance du coaching. On n'arrête pas ces dernières semaines, hein, mais tu passes de John Fox à Matt Nagy et ça accélère quand même beaucoup les choses, quoi.
Mais ce qui est une très bonne nouvelle, parce que là, on a de plus en plus de jeunes coachs qui sont en train de réussir et on va peut-être se débarrasser, non pas que je veux faire de l'anti, anti-vieux, etc., mais on va peut-être finir par se débarrasser de toute une génération de coachs qui ont eu leurs heures de gloire, leurs heures de succès. Mais voilà, ça laisse un peu...
Je t'ai entendu te réjouir quand Dean Pease a été évacué de la tribune.
Non, quand même.
Ça vous apprendra à embaucher des gens qui devraient être à la retraite. Laissez la place aux jeunes. Hein, il a passé 65 piges, dehors. Seahawks 27, Packers 24. Mike McCarthy est-il en danger? Je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit dans le fauteuil, mais du coup, c'est l'occasion de te poser la question. Moi, ce que je disais dans le fauteuil, c'est qu'il a les armes maintenant. Il ne peut pas dire, tu vois, il a Fackrell, il a des mecs qui se montrent en défense. Il a un coordinateur défensif qui commence à faire des choses. Il a des armes offensives aussi. Il a un coureur qui sait faire les choses. Je trouve qu'il n'a plus d'excuses à partir du moment où maintenant il a le matos et il ne l'exploite plus, non?
Ouais, c'est ça, il a plus d'excuses, clairement il est en danger, mais ça on lui dit depuis un petit moment déjà. L'an dernier, de mémoire, ils ont fait sauter Dom Capers, qui était un peu un des derniers fusibles de l'ère Mike McCarthy, parce que ça a commencé un peu à tourner à l'autre boudin. Là, comme tu dis, il y a un gros boulot de Pétine, le coordinateur défensif. Le problème cette saison vient assurément pas de la défense, il vient de l'attaque, ce qui est censé être un peu le chantier quand même de Mike McCarthy. Et puis encore une fois, tu comprends pas très bien pourquoi il donne que 11 balles à Aaron Jones. Pourquoi, enfin voilà, il y a comme d'habitude des choix très contestables de sa part et ça va, même si pour le coup moi je j'ai pas trouvé par exemple sur ce match Aaron Rodgers très bon dans l'ensemble du match.
Oui.
Mais bon, sur le service rendu d'Aaron Rodgers, je vais pas lui reprocher cette défaite là et la saison globale des Packers, mais voilà, je pense que là Mike McCarthy
Oui, je sais qu'il y a des auditeurs qui des fois nous reprochent de rien reprocher à Rodgers. Là, clairement, les sacks sur troisième tentative en fin de match, ils font mal.
Ouais, c'est ça. Je trouve qu'en fait, le défaut en tout cas de cette saison, cette année vraiment d'Aaron Rodgers, c'est de peut-être trop se contenter. Alors, c'est toujours facile à dire comme ça, mais se contenter de faire des big plays, peut-être pas assez assurer les petits gains, les petits trucs qui font avancer l'équipe au long terme, un peu à la Tom Brady finalement. Et vouloir être trop spectaculaire, et c'est bien d'être spectaculaire, mais il y a un moment où tu as besoin de bouger les chaînes régulièrement et pas juste sur un ou deux jeux. Voilà,
il garde beaucoup le ballon, hein, clairement. Bonne gestion quand même des Seahawks, ça appuie toujours fort au sol et Pete Carroll quand même continue de réussir à maximiser le talent qu'il a dans cet effectif. Hein.
Ouais, voilà. Oui, globalement, c'est ça. Offensivement, c'est une équipe qui se tient de plus en plus. Tu as une défense un peu naïve, mais qui est jeune globalement. Donc c'est des joueurs qui vont être en progrès et je fais plutôt confiance à Pete Carroll pour, on va dire, élever à un meilleur niveau un peu cette nouvelle génération en défense. Donc là, cette année, c'est compliqué pour Seattle, mais l'an prochain, dans deux ans, attention à la progression de cette équipe, quoi.
Ouais, ça peut aller vite. Mathématiquement, ils sont toujours dans la course au play-off.
Ouais, après,
mais mathématiquement,
bon, un peu plus de mal à y croire, mais...
Après, il y a des grosses confrontations qui vont venir contre les Panthers, contre les Vikings... qui sont directement les concurrents en play-off, enfin pour le 5e et 6e seed, donc ça va être décisif en tout cas.
C'est vrai. Merci Camille. Giants 38, Buccaneers 35. Cette fois, a priori, c'est fini pour Ryan Fitzpatrick. 3 interceptions de suite. Il a été envoyé sur le banc pour Jameis Winston, qui a mené une quasi-remontée avec 4 drives de touchdown quand même pour son attaque. Il a été superbe statistiquement. Est-ce qu'on est reparti dans le cycle infernal des quarterbacks de Tampa?
Oui, bah, j'ai envie de te dire oui, on va être reparti dedans parce que il vient d'être confirmé pour le prochain match. Le prochain match, il y a des chances qu'il joue à peu près de la même manière, avec des éclairs de génie, des choses moins bonnes. Et en fait, pour le moment, enfin après quasiment tout son contrat rookie terminé, il en est à sa 5e année ou 4e, je sais plus.
Oui, bah, en fait, si là il se blesse d'ici la fin de l'année, il y a sa 5e année qui devient garantie sur son contrat, un truc à 15 ou 18 millions de dollars, ça va être sympa.
Non, mais voilà, tu vois, il en est à sa 4e année et après 4 ans, on commence à avoir une idée de ce qu'on peut obtenir de Jameis Winston, et c'est-à-dire ça, des trucs bien, des trucs pas bien. Comme tu le disais, un peu à l'image d'ailleurs de Ryan Fitzpatrick, qui est peut-être un peu son père spirituel, c'est pour ça que ça se passe bien l'échange entre eux.
C'est son double. Moi, je suis persuadé que c'est le même homme maintenant. Il y a un truc.
Sinon,
il y a l'autre option, c'est de dire il lui redonne une chance parce qu'il a le talent brut, mais on change le coaching staff et on essaie de l'entourer avec un jeune coach qui pourrait peut-être essayer d'innover ou d'en tirer le meilleur.
Comme tu dis, ça peut être aussi une option. Il y a un problème récurrent de coaching staff à Tampa Bay et ça remonte pas à Jameis Winston, ça remonte à bien plus loin à mon avis. Ça fait quand même un petit moment que Tampa Bay a pas eu un coach solide vraiment.
On regrette Greg Schiano presque.
Ouais,
le passage culte de Greg Schiano.
J'aurais du mal à te rejoindre sur cette piste-là, mais mais comme tu dis, effectivement, un coaching peut être l'occasion de relancer un peu tout ça, et parce que aussi, même en défense, tu sens que c'est pas bien coaché. Donc voilà.
Je suis désolé, j'y repense, mais j'étais en train de me dire que Greg Schiano s'entendrait à merveille avec Jameis Winston. En plus, en termes de tempérament, je pense que c'est un match qui est vraiment possible. Quoi. Il y aura un truc entre le côté très psychorigide militaire de Greg Schiano et Jameis Winston. Je pense que c'est fait pour durer. Quoi.
Ah, c'est sûr.
Oui, pardon, t'allais dire quelque chose.
Non, je suis convaincu aussi que c'est fait pour durer. Ouais.
Tu en rêves aussi, j'espère. Faites-le revenir.
Il y en a un qui a l'air de vouloir revenir, c'est Rex Ryan. Quitte à rire, j'enverrais bien Rex Ryan avec Jameis Winston. Je pense que le potentiel article buzz est.
Ah ouais, j'allais dire, là, il faut renvoyer Arnox, ça tombe pas. Si c'est Rex Ryan et Jameis Winston. Un petit mot quand même sur ce superbe match offensif des Giants. Alors. Bon, Saquon Barkley, évidemment, 142 yards et 3 touchdowns. Mm. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même le quarterback le plus précis de toute la NFL à New York. Eli Manning a 17 sur 18 à la passe cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment Saquon Barkley qui le met à l'aise et du coup, il lui a facilité le boulot?
Saquon Barkley l'aide, la ligne offensive est un peu meilleure. Après, pour le coup, il a réussi des lancers un peu en profondeur qui réussissaient pas forcément ces dernières semaines. Donc c'est positif, après ça reste Eli Manning, j'ai du mal à croire qu'il puisse être à 90% de précision jusqu'à la fin de la saison quand même. On le connaît bien le bonhomme pour toute sa carrière à New York, de toute manière la précision n'a jamais été son fort et pas de raison particulière que ça le devient. Sûrement aussi un peu le playbook de Pat Shurmur qui l'aide, qui monte en régime à ce niveau-là. Voilà, après bon c'est une équipe de New York qui réussit une belle perf offensive mais contre la défense des Buccaneers. Pas certain que ça veuille dire grand-chose.
Clairement, 94% de passes complétées pour Eli Manning, j'aurais pas mis une pièce dessus au début d'un match. Cardinals 21, Raiders 23, match très dur pour Josh Rosen, intercepté deux fois dans son terrain, ce qui a offert 14 points à Oakland. 9 passes complétées seulement. Pourtant, il a dit en fin de match, je pense que les Cardinals étaient meilleurs. Est-ce que vraiment meilleur, c'est un terme qui peut s'appliquer quand on a ces deux équipes sur le terrain? Est-ce que quelqu'un est vraiment meilleur que l'autre?
Ouais, bah meilleur dans la médiocrité peut-être. On peut toujours.
Alors, le meilleur joueur sur le terrain, en tout cas, c'était quand même David Johnson. Il a 137 yards de sol, le touchdown de la victoire annulé pour un holding. On sent quand même que depuis que Byron Leftwich a pris les commandes de l'attaque, ils ont trouvé David Johnson. C'est le point positif, on va dire, pour Arizona quand même sur ces dernières semaines.
Ouais.
Josh Rosen, c'est plus incertain. Là, bon, on parlait de quarterback en développement, alors il y a pas grand-chose autour. Enfin,
ouais.
Il y a quand même Larry Fitzgerald et Christian Kirk.
Comme tu dis, Josh Rosen, c'est plus mi-figue, mi-raisin. Après, c'est un rookie. Il a, pour le coup, il a une des moins bonnes lignes offensives de la ligue, contrairement à beaucoup d'autres, enfin, d'autres quarterbacks. Et moi, je trouve qu'il est un peu à l'image des autres rookies de cette saison, de Darnold, de Josh Allen, etc. Il y a des qualités, il y a des défauts. Bon, voilà, c'est une équipe d'Arizona qui est clairement en reconstruction. Du point de vue offensif surtout. Et là, comme tu dis, c'est un peu mieux depuis Byron Leftwich.
Du côté d'Oakland, un beau drive quand même en fin de match pour Derek Carr pour aller chercher la victoire. Enfin, ils ont gagné un match. Il n'y a pas non plus des grandes leçons de positivisme à se tirer de tout ça.
Non, il n'y a pas grand-chose. Ils battent les Cardinals, qui ont battu les 49ers, qui ont été battus par les Giants. Enfin, tu vois, c'est un cercle.
On a vu Derek Carr et John Gruden pas mal s'engueuler sur le banc de touche. Est-ce que tu sens que Derek Carr et John Gruden vont être ce couple qui t'explique « Non, mais nous, les engueulades, c'est comme ça qu'on marche dans notre relation, mais on s'aime. » Et à la fin, ils divorceront et tu diras « On s'en doutait bien quand même, c'était logique depuis le début.
» Ouais, je sais même pas, tu vois. Je peux comprendre que dans un climat de une victoire, 8 défaites... Bon, il y a un peu d'altercation comme ça.
Après, je plaisante. Enfin, je sais même pas si on l'a relayé sur le site, ça, par exemple, parce que je trouvais que ça avait vraiment pas d'importance. Enfin, des joueurs et des coachs qui s'engueulent sur le terrain, vite fait, qui discutent. On n'est pas obligé de tout suramplifier parce qu'on l'a vu sur Twitter pendant 10 secondes, quoi.
Je sais pas. J'ai quand même du mal à croire qu'ils se débarrassent d'un quarterback maintenant.
Bon, tout est possible à Gruden City. Voilà pour les matchs de la semaine, top et flop. Ton top de la semaine, Raphaël.
Alors, mon top de la semaine, que j'avais oublié de préparer, ce qui peut s'entendre à cette grande hésitation.
À cette petite hésitation, ouais.
Je te laisse commencer le temps que
Alors, je vais commencer. J'en ai même deux ou trois, si tu veux. Ça va te faire gagner du temps. Le premier, c'était Adam Vinatieri, qui est quand même devenu le joueur qui a gagné le plus de matchs de l'histoire. Alors, je sais que c'est un kicker, c'est un peu moins glamour que le nombre de victoires des quarterbacks, etc. Mais c'est quand même le mec qui a gagné le plus de matchs dans toute l'histoire de la NFL, Adam Vinatieri, depuis cette semaine. Il a dépassé George Blanda, donc c'est quand même pas la référence la plus fraîche du monde. Mais c'est quand même, non, mais ça marche quand même. C'est quand même le mec qui a gagné le plus de matchs en NFL. Donc voilà, il faut y rendre hommage à Adam Vinatieri, qui va quand même partir avec une bonne pelletée de records, puisqu'il avait battu le nombre de points marqués en NFL un peu plus tôt dans la saison. Maintenant, c'est les victoires. Il a une carrière de. Et il l'a fait en 3 ans de moins. Enfin, il l'a fait. Alors évidemment, les équipes jouent autour, mais il l'a fait en 3 ans de moins de carrière que George Blanda en plus. Donc ça, c'est un premier. Un petit top à Marty Morningweg, le coordinateur offensif des Ravens, quand même, qui a symbolisé l'expression s'adapter aux joueurs qu'on a.
C'est vrai.
Ce qui est quand même toujours à saluer, puisque j'ai jamais été fan de ces coordinateurs qui ont leur système et qui disent que leur système est génial, même s'il n'y a pas les joueurs pour aller dedans. Donc Morningweg, c'est bien ajusté. Et puis un troisième topounet pour le temps que t'ajustes, c'est bon a priori. Le tien, mais juste, j'ai lu ça juste avant l'émission, j'ai vu que un des dirigeants de CBS expliquait qu'ils avaient montré qu'un seul ralenti de la blessure d'Alex Smith et que c'était volontaire et qu'en gros ils ont dit on en a mis un et après on a jugé que c'était suffisant, les gens avaient compris, on voyait sur le visage des joueurs de Smith, etc., que c'était très grave et on n'avait pas besoin d'en mettre des tartines. Et je trouve qu'à une époque, ou en tout cas même sur une télé qui est parfois un peu sensationnaliste ou un peu avide d'images comme ça, je trouve ça assez respectable, la décision, dans le feu de l'action en plus de la télé, de dire on met un replay, hop, on arrête, on n'en met pas plus, vous n'aurez pas le droit à tous les angles, c'était plutôt classe. Raphaël, est-ce que tu as un top ?
Oui, on en a un peu parlé du coup au cours de l'émission, mais on l'avait pas encore fait, mettre en top Frank Reich, du coup le nouveau coach des Colts, qui est arrivé un peu par défaut, qui est en train de tirer, de remettre Indianapolis dans le bon chemin. Et comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup ce coach qui a été capable de s'adapter à un staff déjà à moitié arrivé, qui a gardé les mecs en place en se disant bah écoute, moi il me convient aussi, je veux pas forcément mettre mon empreinte totalement sur cette équipe. J'accepte d'autres points de vue, etc. Et ça a l'air d'être positif. Et puis même, alors là, pour le coup, c'est totalement subjectif, hein, mais je trouve qu'il dégage quelque chose sur le banc, dans les vestiaires, quand on voit les vidéos d'après-match. Il y a quelque chose, donc bravo à Indianapolis qui, décidément, a réussi une belle intersaison, je pense.
Ouais, c'est vrai que le coup de garder une partie du staff, enfin, c'était quand même pas l'arrivée la plus orthodoxe du monde.
Ouais, bah
donc,
ouais.
C'est clairement à saluer. Le flop, est-ce que je te laisse commencer ou est-ce que
c'est bon, j'avais le flop par contre. C'est lié aux Giants. On a appris du coup avant le match entre Tampa Bay et New York que Jason Purple, donc qui a été transféré à l'intersaison entre New York et Tampa Bay, n'avait même pas eu l'honneur d'être reçu par les dirigeants des Giants pour lui dire qu'il était tradé. Les mecs l'ont juste appelé alors qu'il a passé 6 ou 7 saisons à New York, qu'il a fait partie de l'équipe qui a gagné le Super Bowl il y a quelques années. Alors je sais que c'est un business, hein, la NFL, tout ça, je vais pas vous la jouer candide, etc. Mais je trouve que c'est un vrai manque de classe de pas prendre le temps de recevoir un joueur qui a autant compté à New York que Jason Pierre-Paul pour lui dire écoute, on t'échange. Et faire juste un coup de fil pour ça, je trouve que ça montre une gestion qui n'est pas terrible à mon sens.
Oui, c'est vrai qu'il en avait parlé un petit peu avant la rencontre. Et il a saqué Eli Manning pour se venger, quand même. Il l'a fait. Bon, moi, mon flop, j'avais pas beaucoup d'imagination, alors j'ai mis Marcus Mariota. Arrête de jouer avec mon yo-yo avec mon cœur, Marcus. Je t'en prie, je ne supporte plus tout ça. On passe aux questions. Les questions cette semaine, c'est parti, Raphaël. Petite situation, oh, celle-là elle est dure parce qu'il faut penser à la volée. De Manant, petite mise en situation, vous arrivez à la tête de la NFL avec carte blanche des proprios, vous faites quoi pour améliorer la compétition et plus généralement le foot US ? Pour info, l'option partir avec la caisse n'est pas valide. Ah. quelle est la première mesure qu'on prend ? Bah aussi, moi je mets plus d'amende pour les célébrations, tiens, voilà. C'est pas une grande mesure, mais
ouais, oui.
C'est la première qui me passe par la tête.
Ouais, j'avoue que là, comme ça, je sais pas. Je trouve que malgré ce qu'on peut penser de la Ligue et de ses travers financiers, là, OK, il y a peut-être une gestion un peu améliorée, mais globalement, je trouve que c'est une Ligue qui se comporte assez bien. Enfin, Goodell mène quand même bien la barque NFL. T'as une internationalisation qui est en train de se réussir. T'as un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. Globalement, à part peut-être une gestion du coup plus humaine, on va dire, par rapport aux amendes, par rapport aux joueurs, en respectant peut-être un peu plus le fait que c'est pas juste une main d'œuvre. Mais
ouais, c'est ça, c'est des émotions, quoi.
Voilà, bah du coup, ouais, une gestion un peu plus humaine, mais sinon, je trouve sur le fond, c'est quand même une ligue qui est globalement bien gérée. Hein.
Ah bah ouais, ça tourne, c'est un business qui marche, hein, clairement. Question de Jujuju, lequel de ces quarterbacks a le plus d'avenir en tant que titulaire? Attention, Mariota, Winston, Bortles, Keenum, ah. Tannehill.
Oh,
Sur le talent pur, c'est Winston le meilleur en plus.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Sur le talent pur, Winston a le plus de chances de réussir et en étant bien coaché pour le faire. Mais du coup, s'il arrive à sortir de ce côté blessure, Mariota pourrait être le plus neutre et celui qui a la plus longue carrière en étant neutre. Quoi.
C'est ça, il est le plus jeune. Quoi. Keenum et Tannehill, ils sont de la trentaine. Bortles, voilà, on a déjà fait le tour du dossier. Ouais, talent pur Winston, Mariota, s'il arrivait à rester en bonne santé. Question, tiens, M16, a-t-on sous les yeux la meilleure équipe des Saints de l'histoire, meilleure même que celle de 2009 qui a gagné le Super Bowl? Offensivement, Breeze, il est quand même au sommet de son art. Hein.
Ouais, je sais pas si elle est meilleure.
C'est dur de comparer. C'est tellement frais ce qu'on voit en ce moment qu'évidemment c'est impressionnant. Donc c'est dur à juger. Trois questions. Sunmi, Thanksgiving est pour cette semaine. Des idées de recettes personnelles?
Pas spécialement.
Il y a Camille qui nous avait fait un burger au risotto qui était incroyable il y a 3 ans. Qui était vraiment top. Et bah, du coup, deuxième question. Vos meilleurs souvenirs de Thanksgiving? Le burger au risotto de Camille.
C'est vrai.
Voilà. La bataille pour les playoffs fait rage. J'ai noté que Chicago n'est pas dans vos leçons de la semaine malgré leur Sunday Night Football. Que manque-t-il à cette équipe selon vous pour que vous la voyez comme un vrai favori? Pour moi, en tant que fan, c'est la capacité à tuer les matchs. Bon, on l'a dit, c'est plutôt la régularité de Mitchell Trubisky pour nous, a priori.
Oui, je te rejoins là-dessus. Ouais.
Question de Tubluff Martoni. Salut à tous, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Qu'est-ce qu'Alvin Kamara porte sur l'arrière des bras? À quoi servent ces espèces de bandes collantes? Merci. C'est pour pas se rafler de partout, en fait, on est d'accord?
Ouais, je t'avoue que je me suis jamais posé la question pour le coup.
Je voulais faire un petit point pratique. C'est des protections, en fait, pour pas se rafler les bras. Mais alors, moi, ce qui me traumatise par contre, c'est que ça a l'air de coller à mort. Donc, peut-être que tu t'arraches pas les bras en glissant, mais tu dois te déchirer les bras en les décollant. Non, ça fait une épilation gratuite, je sais pas comment ça fait. Mais a priori, oui, c'est pour se protéger, en fait, de tomber sans avoir à mettre des manches, quoi. Il y a une question de le genou de Rodgers encore sur Chicago. Je ne comprends pas votre critique récurrente sur Chicago. Super défense, mais si cette dernière a un coup de mou, l'attaque aura du mal à faire gagner l'équipe. En quoi les attaques plus offensives mais qui galèrent un peu plus en défense, ça vous, exemple les Rams, ça vous rassure plus? Je sais pas si ça nous rassure plus. On prône juste que les équipes soient équilibrées, non?
Ouais, c'est ça. Je suis pas particulièrement plus rassuré par une grosse attaque avec une faible défense. Hein. C'est juste qu'on a historiquement, on a peut-être confiance, un peu plus tendance à faire confiance à un quarterback plus établi ou en tout cas une attaque qui nous donne le sentiment de pouvoir aller chercher le match, même si les défenses sont aussi capables de le faire. Hein. On l'a vu par le passé, on le voit encore de temps en temps, peut-être un peu moins d'ailleurs.
Disons que le problème, c'est que pour gagner vraiment juste avec la défense, il faut avoir une défense all-time incroyable.
Ouais, c'est ça. Je suis d'accord là-dessus. Et puis en plus, je pense pas qu'on soit si critique que ça de Chicago. Mais
encore une fois, on émet des doutes un peu sur Mitchell Trubisky. On demande qu'à être convaincu.
Ah, carrément, ouais.
Question de Carson Legrand, qui paraît possible qu'une équipe gagne la NFC Est avec un bilan de 8-8 au meilleur des confrontations directes. Quelle équipe dans l'histoire de la NFL a gagné sa division avec le plus mauvais bilan? Peut-on gagner un Super Bowl avec un bilan négatif en saison régulière? Ça paraît fou. Et enfin, qui vous semble le mieux armé pour gagner cette NFC Est? Alors, il y a beaucoup de questions, c'était Carson Legrand. Bilan de 8-8, oui, puisque les Cardinals l'avaient gagné avec, les Seahawks, gagné avec 7-9. C'était ça, hein. Si je dis pas de bêtises. C'est l'année, Camille, tu vas confirmer, c'est l'année du super run de Marshawn Lynch contre les Saints.
Ouais, c'est ça, c'est le premier match des playoffs où Marshawn Lynch en plus fait ce run contre les Saints qui étaient champions en titre. Donc, d'une part, on peut se qualifier à 7-9, mais en plus, on peut gagner des matchs en play-off à 7-9.
Ouais, clairement.
Donc, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Voilà, la leçon vient des Seahawks. Et Raphaël, si je ne dis pas de bêtises, les Giants, comme quoi on a tous les exemples là aujourd'hui en plateau. Raphaël, les Giants sont à 9-7 dans l'année où ils gagnent le titre la dernière fois.
Ouais, la dernière année, effectivement, ils sont à 9-7. Ouais, à 9-7, et ils vont gagner tous leurs matchs de play-off à l'extérieur.
Oui, c'est vrai.
Donc,
les deux derniers, c'est pas le scénario des deux derniers titres même ? Je me demande s'ils font pas
non parce que de mémoire je me demande si celui contre les Patriots ils gagnent pas le premier contre Atlanta à la maison en wildcard, j'ai un doute.
Ah, ils gagnent la division peut-être. Alors attends, je vais regarder quand même.
D'ailleurs
New
c'est
York
peut-être
Giants.
Celui à 9-7 où ils gagnent le premier match le wildcard.
Alors attends, ils gagnent en intersaison. En post-saison, pardon, donc ils battent les Buccaneers à Tampa, les Cowboys à Dallas, les Packers à Green Bay et les Patriots au Super Bowl.
Ouais, ça c'est le premier, mais du coup ça veut dire sur celui où ils sont à 9-7, ils gagnent à la maison contre Atlanta, hein, le premier match.
Ah, sur celui de 2012 alors,
ouais,
c'est ça ?
Ouais.
D'accord. Alors attends, ils sont 2010-2011, c'est saison premier demi, one Super Bowl. Ouais, c'est ça, contre les Falcons. Ouais. Je vais vérifier, t'as raison. Ah bah, j'ai pas les stats, donc je te fais confiance.
Ouais,
ça gagne à la maison, ouais.
Ouais, contre les Falcons, ouais, le premier. Après, ils vont battre Green Bay à Green Bay et San Francisco à San Francisco.
C'est vrai. Oui, c'est marrant, il y avait dans leurs deux derniers titres, ils gagnent à Green Bay et contre les Patriots au Super Bowl. c'est les petits parallèles. Petite question, alors attendez, j'en étais où ? Patrick Mahomes va-t-il battre le record de touchdown lancé en une saison ? Il a 37, le record est de 55, il y aura 5 matchs. Alors on va faire les deux, il y en a deux. 37, 55, ça fait quoi ? Il en faut 18 en 5
18,
matchs ?
18, ça fait plus de 3 par match. C'est faisable, ouais. Mais c'est pas évident non plus. Hein.
Il va falloir s'accrocher, ouais, ça fait une bonne moyenne. Après, il en a lancé 6 hier.
C'est jouable, sans aucun doute.
Et question, c'était Jeff DeWan. Aaron Donald va-t-il battre le record de sacs en une saison ? Il est à 14-5 et lui aussi, il lui reste 5 matchs. Le record est à 22-5. Donc là, il en faut. Ouais, ça fait beaucoup là.
Je pense que ça va lui échapper. Il lui en faut 8, donc il lui faudrait un peu plus de 1 par match. Je pense que ça va lui échapper de peu.
Ouais, ça va être juste. Question tactique un peu de Bossetti. Depuis quelques années, j'ai l'impression que le rôle des tight ends est en diminution dans la ligue par rapport à une époque où Gronk, Graham, Witten, etc. postaient des stats affolantes et étaient mis en avant pour leur capacité à créer des match-ups favorables contre les linebackers et les defensive backs. Mm-hmm. Est-ce que c'est à cause d'une génération avec moins de talent à ce poste ou est-ce que les attaques ont évolué entre-temps ?
Je pense qu'il y a un peu de tout. Effectivement, on est peut-être dans une génération de tight ends qui met un peu plus de temps à émerger que Gronk, Hernandez, Graham, tout ça. Mais on a aussi, je dirais, des running backs qui sont capables de sortir du backfield de plus en plus, d'attraper la balle, qui servent peut-être de plus en plus de soupape de sécurité au quarterback et remplacent du coup et prennent des jeux au tight end qui à un moment étaient beaucoup des soupapes aussi de sécurité des quarterbacks. Donc voilà, peut-être un rôle plus accru des running backs à la réception. Des tight ends moins bons globalement, enfin un mélange d'un peu de tout, quoi. Je pense que.
Et puis ça, c'est côté offensif, mais c'est vrai que peut-être côté défensif, ça c'est un peu. Ça s'est un peu adapté aussi, parce que
aussi,
l'explosion des saisons, la Gronk Graham, à un moment, c'est vrai que c'est ça. Il y avait Tony Gonzalez avant, qui était un tight end à la réception, mais qui était presque plus une exception. Le rôle du tight end évoluait et c'est devenu énorme à la passe tout d'un coup.
Ouais.
Et en effet, les coordinateurs défensifs sont aussi intelligents en NFL. Il y en a des très bons.
Sont intelligents, et puis je pense que tu as de plus en plus aussi de défenseurs un peu hybrides, linebacker, safety,
ouais.
Capables d'aller très vite, taper très fort et plus facilement, qu'on plus de facilité peut-être à plaquer les tight ends qu'à l'époque, à la haute époque Gronk, etc. Quoi.
C'est ça, ouais, il y a une adaptation à plusieurs niveaux. On va terminer avec une question de Je suis Cap. Salut équipe, merci pour votre travail chaque semaine. J'ai plusieurs questions à vous poser. Cette semaine, les défenses s'en sont plutôt bien sorties dans l'ensemble. Alors, je pense que la question a été posée avant le match à milliard de lundi. Ne pensez-vous pas que les défenses vont s'adapter aux évolutions des règles de la ligue et vont finalement revenir à leur niveau après quelques temps ? Compliqué quand même.
Je sais pas, je suis pas. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué. Il faudra peut-être un peu une sorte de révolution défensive, des coachs qui amènent peut-être autre chose. Après, moi, là, dans le message, on insiste sur les règles, mais pour moi, c'est pas la seule explication de la difficulté des défenses cette saison. Hein. Je pense que ça peut s'expliquer aussi par des coachs offensifs plus doués, plus originaux, ouais. Qui tentent plus de trucs. On en parlait par des coureurs qui jouent de plus en plus qui captent aussi bien les ballons que des receveurs, donc tu multiplies le nombre d'armes sur les phases à la passe. T'augmentes quand même le nombre de cibles. Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout, en fait, qui peuvent expliquer le problème des défenses, mais bon.
Et après, si tu veux un truc très, un peu cynique et tout ça, mais il y a quand même un truc qui, dans les règles et dans l'évolution des mentalités, aujourd'hui, c'est quand même plus le même jeu qu'il y a 20 ans. Enfin, je sais qu'on a des puristes qui nous écoutent, années 90, etc. Mmh. La grosse différence, quand même, dans tout ça, c'est que, et c'est pas un mal, je veux dire, on n'est quand même pas là, on n'allait pas à se réjouir, maintenant qu'on sait les dommages que ça peut avoir sur le cerveau, etc., de dire qu'on protège les mecs. Mais donc, le fait qu'ils soient protégés maintenant, qu'il y ait des évaluations pour les commotions cérébrales, qu'on laisse pas revenir avec un mec avec une commotion cérébrale, etc., ça rend forcément le jeu plus propre et dynamique, parce qu'avant, quand un mec comme Brett Favre ou Troy Aikman se faisait sonner la tronche, voyait des étoiles, on le relevait, on lui disait t'y retournes, à mon avis, en termes de lucidité, ça provoquait quelques interceptions et quelques matchs un peu moins fluides. C'est pour ça que leurs ratios et leurs évaluations étaient quand même... Parce que les mecs rentraient dans n'importe quelle situation.
Mais t'as raison, hein,
ils ont témoigné depuis, et je pense qu'en termes de lucidité, quand tu viens d'être commotionné... Pour lire une défense et lancer un ballon, excusez-moi, mais je pense qu'il y a certaines interceptions qu'on a vues en vidéo et qui sont célèbres. Les mecs doivent pas être très très au clair là-dessus, quoi. Donc, non, mais tu vois, encore une fois, hein, c'est cynique, mais dans les faits, je pense que ça joue clairement. Quand un mec sort au moins de petits pépins et qu'on est sûr qu'il est OP avant de le remettre sur le terrain, bah, il est OP quand il est sur le terrain, quoi. Donc je pense que ça, c'est une toute petite chose, hein, mais voilà. Après, les défenses vont aussi s'adapter au style de plaquage et voilà, mais on est quand même sur une tendance où les avantages, où les attaques seront un peu plus dynamiques, clairement. On reviendra jamais aux années 90, quoi.
Ouais, je pense pas.
Ni même au Super Bowl affreux du début des années 2000 avec des Buccaneers ou des ou des Raiders qui c'était quand même un peu haché, hein, à regarder.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Il y a eu quelques Super Bowls là, c'est le Ravens Giants en 99 ou 2001 là, je sais plus
Il est dur celui-là. Je crois que c'est le premier que j'ai regardé en entier en plus. Et il était sacrément dur. Fallait vraiment avoir envie. C'est quand même aussi sympa. Encore une fois, j'aime bien les matchs un peu moins foufou que ce qu'on a eu la nuit dernière. Mais c'est quand même, je préfère quand même regarder ça que le Raiders, que le Buccaneers Giants dont on parle de 2001.
Puis globalement, ça commence quand même à être une vraie tendance, parce qu'il y a deux ans, tu prends les Falcons, ils vont au Super Bowl en mettant plus de 36 points sur la saison. L'an dernier, le Super Bowl. On n'a pas vu beaucoup d'actions défensives entre les Eagles et les Patriots.
Oui.
Non,
mais clairement, on est plus sur cette tendance. On va parler un petit peu des matchs du jeudi. Triple dose cette semaine. Alors, on vous rappelle, il y aura une émission spéciale. Hein. Cette semaine, on sera sur l'émission classique d'abord avec la preview du week-end. On l'enregistre, comme ça, vous l'avez en boîte. Vous pouvez l'écouter vendredi ou jeudi soir, mais plus probablement vendredi matin et pendant tout le week-end pour préparer les matchs du dimanche. Et puis, le direct à 20h pour Thanksgiving, ce sera jeudi, 20h-21h. On parlera évidemment du match qui se passera. On commentera un petit peu ce qui se passe devant nous et on fera le bilan de la saison. Devant ces matchs, ce seront Lions-Bears, le premier de la soirée. 4 victoires, 6 défaites pour les Lions, 7 victoires, 3 défaites pour les Bears. Est-ce que les Lions, c'est à domicile du coup, et ils tapent les grosses équipes à domicile, est-ce que ça peut être la petite surprise de la soirée?
Ça peut l'être. On a une équipe assez imprévisible, comme on l'a vu depuis le début de saison. Je dirais qu'on va vite le savoir si la ligne des Lions, qui a eu quelques difficultés, la ligne offensive des Lions, qui a eu quelques difficultés par moment, si elle est vite dominée par le front seven de Chicago, là, Matt Stafford va passer une soirée très longue et à mon avis, ça sera plié. Par contre, si tu arrives à avoir une ligne des Lions qui résiste bien, comme elle l'avait fait par exemple contre les Patriots, pourquoi pas les Lions emporter un peu ce match, c'est pas un problème, mais je pense qu'on aura vite la réponse pour le coup.
Je pense qu'ils vont se faire. Je posais la question, mais je pense qu'ils vont se faire manger en défense, d'autant que Kerryon Johnson a priori sera pas là, donc qui était quand même un peu leur petite respiration. Ça va être compliqué. Le deuxième, c'est Cowboys Redskins, hyper important dans cette NFCS grande ouverte dont on parlait. Si les Cowboys gagnent, ils se retrouvent en tête de la division à égalité avec Washington. Et alors là, sur la physionomie de jeu, a priori, on n'est pas sur du Rams Chiefs au niveau des quarterbacks qui vont faire voler le ballon. Ça va être vraiment du costaud. Là, si vous aimez le match costaud, ça semble pas mal à ce niveau-là, non?
Ouais, ça sent la sueur et les grosses courses en plein milieu pour taper le défenseur adverse. C'est deux équipes qui vont inciter assurément sur le jeu de course des deux côtés, que ce soit Peterson ou Elliott. Et comme tu dis, avec peut-être du coup un petit avantage en plus pour Dallas, avec plus d'options aériennes que Washington.
Et puis le dernier, Saints-Falcons, 9-1 pour les Saints, 4-6 pour les Falcons. Achever un adversaire direct de division un jour de fête, c'est plutôt sympa. C'est ce qu'on offre aux Saints. L'occasion d'enterrer pour de bon les Falcons cette année. D'enterrer notre pronostic pour le Super Bowl, je crois, parce qu'on a tous les deux mis les Falcons, d'ailleurs, au passage. Donc on va se faire achever un jour de Thanksgiving. Bon, a priori, dans un feu d'artifice, c'est plutôt avantage Saints.
Ouais, c'est plutôt avantage Saints, même si on mettra toujours le petit attention match de division, match entre rivaux. On sait très bien que ça peut parfois donner des surprises quand même. Le favori l'emporte pas toujours dans ces cas-là. Mais oui, globalement, et sur ce que montrent les Saints depuis 9 semaines, on voit pas très bien dans quel secteur les Falcons peuvent les bloquer, que ce soit défensivement. Enfin, on voit pas très bien quoi. Comment ils peuvent tenir la mesure.
Triple prono.
Triple prono. Et ben écoute, on commence par Chicago face aux Lions. Donc Chicago.
Ouais.
Je vois, oui, Chicago, Dallas et puis les Saints.
Allez, Chicago, Dallas, New Orleans, pour moi aussi, on est d'accord. On termine avec le 2 minute warning, Raphaël. Trois petites questions. La première est mi-footballistique, mi-footballistique. Est-ce que le maillot foot US du PSG est réussi, selon toi?
Aucun avis.
Aucun avis. Les Redskins ont testé Mark Sanchez et J-Manuel, TJ Yates. Ils ont signé Mark Sanchez. Est-ce que s'ils se blessent, tu penses qu'ils vont appeler Tim Tebow et Jack Locker?
Ah, Thibaut, ouais. Thibaut, j'y crois à fond.
Je pense que Thibaut, il aura une place en NFL avant Kaepernick. Et puis, est-ce que tu as cru une seconde que les Browns pourraient embaucher Condoleezza Rice comme coach?
Non.
C'était l'info, mais genre, ouais. What the fuck du dimanche, on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, moi, je la vois bien en commissionneur.
Ah oui, ouais, effectivement. Elle pourrait plaire en commissionneur vers une des proprios qui essaient un peu d'assagir leur image de... homme vieux blanc républicain.
Ouais. Là, ce serait vraiment... oui. Bon, républicain, ça le serait toujours, mais au moins, ce serait plus homme vieux blanc.
Voilà, c'est ça. Oui, ça pourrait, effectivement.
Ouais, je pense que le jour où ils vont se lasser de Roger Goodell, elle pourrait être bien placée. On rappelle, elle a fait partie du comité de sélection des playoffs NCAA, au tout début de la création des playoffs NCAA. J'avoue qu'à l'époque, je m'étais aussi demandé ce qu'une ancienne secrétaire d'État venait faire là. Mais visiblement, grosse fan de foot US et des Browns. Donc en plus, elle a de l'endurance et de la patience. Donc ça ferait peut-être un bon commissionnaire. Merci beaucoup, Raphaël. C'est comme ça que se termine l'épisode 264 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc jeudi pour la preview du week-end. Jeudi ensuite à 20h en direct pour l'émission de Thanksgiving où on fera le bilan avec nos tipeurs. N'hésitez pas si vous nous aidez sur Tipeee ou si vous voulez le faire à choisir la contrepartie Beast Mode pour apparaître avec nous à l'antenne pour qu'on vous appelle. Le fauteuil évidemment dimanche pour la prépa des matchs. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches. Happy Hour étendu pour ceux qui viennent voir les matchs. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, c'est touchonactu.com. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu, Raphaël _TDA, Camille Sarabène et Alain Mattei pour les comptes perso. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Camille.
Merci à toi.
À bientôt messieurs. Moi je vous laisse avec un peu de musique. Très bonne semaine sur TDActu.com. Ciao ciao. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Your pain.